Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Et je considère Dimitri un des génies modernes du football.
Un joueur ne peut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Kevin Diaz, Elton Mokolo, Walid Acharchour et Fred Hermel qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Conflit, rencontre générationnelle pour Fredo.
Ouais, ça fait bizarre.
Je te montrerai le joystick.
Je vais voir Fred déjà. On a déjà vu Fred sur un terrain. Alors Fred avec un joystick, c'est peut-être encore plus drôle, je pense.
T'as déjà joué à la PlayStation quand même.
Oui, quand même. Oui, mais j'aime pas trop.
Avec son neveu peut-être, non?
Non, mais ouais, non, je suis pas très fan.
Au moins, ma regarde.
Non, mais moi, en fait, moi, quand j'étais petit, c'était des trucs à cristaux liquides, là.
Ouais.
J'avais un jeu qui s'appelait Turtle Bridge.
À Game Boy?
Mais avant les Game Boy. Avant. Non,
c'était Game Boy, c'est fin des années 90.
Je parle là, 80.
C'était pas la Game Boy, c'était le boy qui gagne.
Un temps que Vinicius ne connaît pas également, ouais. Les amis. Trop jeune, encore au cœur d'une polémique après le match d'hier soir, après ses larmes émouvantes en conférence de presse, sans veille de match. Il a eu un mauvais geste, moi qui personnellement m'a pas choqué, sur Aymeric Laporte. Qui s'est moqué de lui d'ailleurs aujourd'hui, hein, sur les réseaux. Il a fait peut-être qu'il voulait danser, Vinicius. Voilà, Fredo, ça aussi, encore une fois, ça alimente les sujets autour de Vinicius, le décalage entre. Ouais. C'est d'ailleurs pas de décalage, hein. Faut pas corréler ses larmes en conf et son comportement
non,
sur le terrain pour
non.
Moi. Mais,
en fait,
mais il agace quand même. Voilà.
Il agace, mais parce que par son jeu, il agace. Et c'est quelqu'un qui est, quelque part, il a un petit peu du Cristiano Ronaldo en lui. C'est-à-dire qu'il veut toujours gagner à un point que ça devient insupportable.
C'est vraiment
c'est-à-dire,
ça.
Ah ouais, vraiment, c'est un gagneur, c'est un. Et il est, comment dire. Alors, Aymeric Laporte, on a rigolé. Hein, faut pas non plus en faire des tonnes, quoi, tu vois. Mais c'est vrai,
il pose son coude sur lui. Ça
c'est vrai
va.
Que les Brésiliens, quand ils égalisent sur le pénalty à 3-3, putain, ils célèbrent le but comme si c'était la finale de la Coupe du Monde.
Ça, en revanche, oui.
Mais ça, c'est l'esprit brésilien. Et finalement, moi, j'ai beaucoup de commentateurs en Espagne qui disent, mais c'est bien. Voilà, ces mecs sont compétitifs, quoi. Donc, c'est pas rien de jouer en Espagne-Brésil au Bernabéu. Et donc, Vinicius, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il est comme ça. Qu'il est énervant, qu'il est comme ça, qu'il se motive aussi dans la guéguerre avec les autres. Voilà, c'est pas Kaka qui était tout le temps impérial. On a l'impression que rien ne l'atteignait, etc. Il y a des joueurs comme ça, non? Lui, c'est un sanguin.
Mais lui, en conférence de presse, il y a quoi? Il y a 2-3 mois, il avait dit oui, je sais qu'il faut que je change mon comportement sur le terrain.
Oui. Il a que 23 ans. Si c'est encore un gamin.
Après, on peut dissocier les deux. Tout ce qui se passe autour du racisme,
ah oui, c'est ce que je disais.
Qui est nauséabond autour du
racisme d'anime.
Voilà, et qu'on condamne totalement. Et après, de l'autre côté, on peut aussi parler de ce que Vinicius est sur le terrain, c'est-à-dire un joueur provocateur avec le ballon, mais aussi dans son body language.
Un peu sale gosse, on peut le dire.
Auprès de ses adversaires. Maintenant, ça ne légitime pas et ça n'autorise pas les supporters à être aussi.
Ouais, t'as raison, c'est deux choses.
Moi, je pense que demain, voilà, tu peux être aussi un supporter adverse qui n'aime pas la provocation de Vinicius tout en restant dans le respect.
Tu peux siffler sans faire les cris de singe.
Voilà,
dans le
respect humain. Et peut-être que lui aussi, parfois, parce qu'il faut qu'il fasse attention, Vinicius, moi, ce qui peut me déranger, c'est si ça, ce rapport conflictuel qu'il peut avoir avec ses adversaires notamment, si ça le dessert dans son propre jeu à lui.
Ouais.
Si ça le sort du match, s'il peut prendre un jaune, s'il peut prendre un rouge, son jeu avec les arbitres, etc. Mais ça, c'est un débat annexe, c'est un débat très très différent par rapport à.
Oui, mais c'est un
débat. Tu sais ce qui énerve le plus les adversaires, c'est qu'il leur met des vents, quoi.
C'est-à-dire sur le terrain, quand tu parles de.
Mais c'est dur pour un défenseur quand t'as Vinicius en face, quoi. Donc, à un moment,
comme Neymar à sa meilleure époque.
Bien sûr, ils sont comme ça parce qu'il y a un côté.
Il y a forcément un problème du côté de Vinicius de gestion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il a du mal à gérer ses émotions, sur le terrain, quand il répond à une provocation, parce qu'il peut être expulsé, notamment à Leipzig, et là, il met son équipe et lui-même en difficulté. Par contre, bien sûr que ceux qui vont légitimer un quelconque acte de provocation, de racisme, l'enthousiasme parce que Vinicius est agaçant, ça c'est bien sûr inaudible et insupportable. Mais il y a aussi des joueurs qui sont comme ça. Et j'ai envie de te dire, heureusement, tant que ça reste dans le respect, que Vinicius est chambreur, que Vinicius peut s'énerver après un adversaire. Honnêtement, moi, ça fait aussi partie
de que
j'aime dans le foot.
Mais par contre, comme tu as dit, à lui dans les gros matchs,
je vais te dire, forcément, pour l'avoir vécu, des fois, ça te fait sortir du match quand même.
Tu peux être matrixé en fait.
Et bien sûr,
tu peux te rentrer dans un.
Des fois, tu te matrixes tout seul et tu crois que t'as besoin d'être énervé pour jouer. Des fois, ça te sert. Et
oui, ça peut servir aussi.
Ça va te desservir.
Tu sais que tu peux donner une rage. Rossellou, l'autre jour, je lui avais dit, mais tu sais, s'il te plaît, calme-toi, on n'a pas envie de finir à 10, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça qu'il doit apprendre, je sais. Et moi, je m'en souviens, et de discussion que j'avais pu avoir avec Carlo Ancelotti, où Vinicius, il a dû apprendre beaucoup, beaucoup de choses quand il est arrivé au Real. C'est-à-dire que, vous vous souvenez.
Il a déjà fait un stem énorme.
Hein. Mais Benzema lui a pris beaucoup, déjà.
C'était quand même. Et puis, Bétonnier et Zidane à l'entraînement.
Faut pas oublier la déclaration de Benzema, hein, quand même, dans le
Mais bien sûr, mais oui. Et il n'en a pas voulu. Parce que Benzema, c'était son maître, etc. Mais ils ont beaucoup travaillé. Bétonnier, Zidane, Ancelotti. Déjà, techniquement, c'est plus du tout le même joueur qu'il y a quelques années. Oui. Rappelez-vous, Vinicius, c'est le mec qui faisait trois dribbles, super. Ça, oui. Et puis, dans le dernier geste, il faisait n'importe quoi. Il a quand même énormément progressé dans son jeu. Donc, ah, oui. Là aussi, il faut faire confiance à l'encadrement qui vont lui permettre d'évoluer et de progresser au niveau de son comportement. Mais vous n'aurez jamais un Vinicius serein sur un terrain. Ça n'existe pas. C'est sa manière d'être.
Bon, ça arrivera peut-être. Roger Federer avait réussi à calmer ses démons. Il cassait des raquettes à chaque match.
Ça, c'est vrai.
Et il a réussi à devenir très calme.
Fredo, merci, c'est un plaisir de t'accueillir.
Je suis jeune, j'ai l'impression d'avoir 23 ans là.
Je vais quand même dire un truc sur les Brésiliens. Ouais. Pour avoir joué avec et contre des Brésiliens, on croit qu'ils ont toujours le caractère samba et tout.
Mais non, regarde,
il y a beaucoup de Brésiliens qui sont insupportables, voire violents sur le terrain. J'ai joué contre des équipes de Brésiliens ou contre des équipes portugaises, il y avait beaucoup de Brésiliens.
Il n'y a pas de généralité non plus.
Non, mais c'est pas que des tricoteurs et des dribbleurs.
Il y a des très bons défenseurs.
Et des rugueux en plus.
Après, on parle de joueurs qui, à 16 ans, ils jouent devant 80, 100 000 spectateurs. C'est-à-dire que si t'es pas prêt pour jouer dans ces contextes-là, t'as rien à faire.
Là, t'en as un autre qui arrive, là, Hendrick. Bah, là, voilà,
on en parlera plus tard, Hendrick. Merci, Fredo.
On aura le temps.
Très bonne soirée à toi.
Adios, Chicos.
À très vite sur RMC.
RMC. OM. PSG. J-4.
Bonne soirée.
J-4 avant Marseille, Paris, Saint-Germain. On a convoqué ce soir Romain Canuti en direct de Marseille. Salut Romain.
La Canute.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va
bien et toi dans ta salle de bain, tout se passe bien?
Non, écoute, on a fait plein de tests, j'ai fait toutes les pièces, si tu me dis que je suis dans la salle de bain, je vais être vexé.
Ça résonne. Mets des meubles chez toi, Romain. Alors, on parle de Marseille-PSG, parce que alors, tu vas me dire dans un instant s'il y a une grosse inquiétude qui est amplifiée avant l'avenue du PSG habituel. Je rappelle, Ulysse Garcia, out. Pape Gueye, Ismaël Assar, out. Jonathan Clauss, forfait pour 3 à 4 semaines. Absence auxquelles on peut ajouter celle de Rongier, de Bilal Nadir, Jean Onana, Bao Meite, Mickaël Morillo et a priori Samuel Gégaud, tout ça donc avant Paris, mais pas seulement Paris, avant Lille, Nice, Lens et au milieu de la double confrontation contre Benfica. Est-ce que c'est la panique au club? Est-ce que c'est la panique à Marseille, mon cher Romain?
Alors déjà, Nico, je crois que tu en as oublié deux. Il reste encore Leti Ndiaye et Julien Rodriguez qui sont blessés. Bon, tu me diras, ça fait un petit moment. Donc,
c'est le gardien aussi.
Paul Lopez, non, Julien Rodriguez. Non, bien sûr. Il y a Simon, ouais, c'est le troisième gardien, ça va aller. Mais non, effectivement, il n'y a plus grand-chose. Et effectivement, le troisième gardien, en fait, réflexion faite, il aurait été utile ne serait-ce que pour faire des oppositions à l'entraînement. Là, ils sont plus assez. Je suis à deux doigts d'y aller moi. Non, c'est très problématique et effectivement, tout le monde est déprimé. En fait, t'as ce truc de te dire la saison là, t'as l'impression que c'est fini avant même d'avoir joué, alors que t'as quand même quelque chose d'excitant à jouer parce que t'avais quand même des places européennes. Là, tout le monde est conscient que troisième, ça aurait été quelque chose de totalement fou. Mais vu la saison, un retour ne serait-ce que dans le top 5, ça aurait été incroyable. Alors c'est encore faisable, hein. On va pas dire c'est fini, on va déclarer forfait, mais tu te dis que c'est très compliqué à jouer et c'est très compliqué de commencer à faire des calculs alors que tu as un quart de finale de Coupe d'Europe. c'est un quart de finale de Coupe d'Europe, ça arrive pas toutes les années à tous les clubs français, et là tu vas le faire à reculons, en calculant, en te disant ouais mais on met peut-être lui, il est pas à 100%, faut qu'il fasse gaffe.
Et tu fais quoi en défense alors, juste dimanche déjà Romain, qu'est-ce que peut imaginer alors, Jean-Louis Gasset là?
On doit bien en défense centrale.
Je pense, c'est le plus probable. En fait, il y a deux joueurs qui sont aptes, vraiment, et on va toucher du bois, hein, parce que c'est pas. Il peut se passer encore des choses au rythme où là ça va, il peut se passer encore des choses d'ici dimanche. Et donc, tu as Quentin Merlin et Chancel Mbemba. Donc, vraisemblablement, tu les mettrais les deux sur les côtés, dans le sens où Mbemba est capable de jouer latéral droit.
Pour bloquer Mbappé
Il l'a montré. Mbappé, on a vu l'an dernier, je sais pas si tu te rappelles, c'était Eric Bailly qui était à son marquage dans le système Tudor sur le match de championnat, ça avait fait doubler d'Mbappé et quasiment la fin du parcours de Bailly à l'OM. Donc là, ça va être pas un cadeau pour Mbemba, mais en même temps, t'as pas le choix. Et défense centrale, t'as Kondogbia à faire redescendre et t'as quatre joueurs qui sont actuellement blessés. Et il y en a forcément un qui va serrer les dents et qui va voilà bien se strapper. Donc c'est soit Balerdi, soit Jean Onana qui peut descendre lui aussi, soit Gigot, soit même Pape Gueye. Tu pourrais imaginer un truc où au final ça joue à 5 derrière avec deux des quatre noms que je viens de vous donner qui serrent les dents.
Mais c'est des joueurs qui sont blessés et
qui vont devoir s'accrocher quoi. Tu parles de Jean Onana et de Samuel Gigot, qui sont très incertains, bien sûr. Pas 100%.
Alors après, c'est des douleurs différentes.
Si tu mets Jean Onana, Pape Gueye et Kondogbia en défense centrale, qui tu mets au poste de numéro 6 quoi?
C'est vrai.
C'est pour déshabiller
Paul pour habiller Jacques. Pour déshabiller Jacques aussi.
En plus, il l'avait, Walid. Hein.
C'est le problème d'être à distance. Je t'aurais mis ma main sur la bouche. Là, je t'aurais dit, laisse le génie s'exprimer.
Il va tout droit.
Il était lancé.
Oh, je suis nul.
On pouvait avoir un truc créatif. Hein.
Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la trêve a tué la fin de saison de Marseille? Je pose la question, elle est assez caricaturée, assez excessive. Mais sauf qu'on l'a dit, au mois d'avril, j'ai cité le calendrier, il est très important pour une équipe qui doit refaire son retard en Ligue 1, qui doit rêver un peu plus en Coupe d'Europe. Kevin? C'est foutu pour toi ou pas? Ou alors les 11-12 joueurs disponibles et de haut niveau peuvent faire l'affaire?
Je pense que ça peut être foutu, mais je suis pas sûr que ce soit la trêve qui va tuer la fin de saison de l'OM. Hein. Même avec un effectif au complet, il y aurait eu quand même des difficultés au vu des adversaires qui vont se présenter devant l'Olympique de Marseille. Maintenant, après, de toute façon... It is what it is, comme disent les Anglais. Ils vont devoir faire avec. Je sais quoi, Lid, t'as pas compris, mais je t'expliquerai après.
Ouais,
c'est forcément, il y a pas le choix. Il y a pas le choix pour l'Olympique de Marseille. Il faut faire avec cet effectif. Alors, je connais pas la réserve de l'OM, hein, qui est pas très bien classée en National 3, mais il y a peut-être 2-3 jeunes qui peuvent dépanner au moins sur le banc. Mais c'est clair que là, l'OM n'a pas grand-chose à espérer avec un effectif aussi diminué et au vu des échéances à venir.
Mais c'est pas la trêve qui a tué la saison de l'Olympique. L'Olympique de Marseille s'est quand même mis dans cette situation-là tout seul, de par leurs mauvais résultats, et puis aussi parce que les blessures ne datent pas d'hier. Entre la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations de la part de Longoria, plus les blessures, on se rappelle déjà du mois de janvier, qui avait été pour moi charnière pour l'Olympique de Marseille, avec des points... Des points laissés en cours de route, je me rappelle de Monaco à 10 contre 11, voire même à 9 contre 11 sur la fin de match. Je me rappelle de ce match contre Metz, où tu prends un carton rouge très très tôt à la maison. Je me rappelle de ce match contre Strasbourg aussi, le 1 partout, où tu mènes 1-0 et ça fait 1-1. Avec ces points-là, l'Olympique de Marseille aurait pu peut-être avoir un matelas conséquent, ou en tout cas se permettre de perdre contre le Paris Saint-Germain avec des blessures. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que l'Olympique de Marseille est dans une situation où dans ce calendrier qui va être infernal, ils ne peuvent pas laisser de points parce que c'est des matchs très très importants. Tu vas jouer Lille et si tu veux rattraper Lille là-bas, il va falloir gagner ou au moins faire un résultat positif. La même chose pour Lens, la même chose pour Nice où tu vas les recevoir sur les prochaines semaines. Moi, je pense pas qu'on puisse répondre que ce soit la dernière trêve internationale qui a tué la saison.
Non, c'est un tout. C'est le mercato l'été dernier.
Oui, voilà. C'est la gestion d'une saison.
Dans un instant, on fait une pause. Romain Canotti reste avec nous. nous également aussi. Je te rends la parole dans un instant. Et vous, au 32-16 du Pantin Marseille, appelez-nous pour nous dire comment vous appréhendez ce match dimanche soir et le mois d'avril qui arrive pour l'OM.
Va pas les aider. Hein.
Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC. À tout de suite.